Chapitre 8. L'épicerie de Touk. La porte dérobée. 1. Pendant la demi-heure qui suivit leur départ du Rocking Bee, Roland et Jake chevauchèrent en silence vers l'est, vers les petites exploitations, leurs chevaux avançant d'un même pas, en toute camaraderie. Roland savait que quelque chose tracassait Jake, quelque chose de sérieux. Il le voyait à son expression troublée. Pourtant, le pistolero n'en fut pas moins ahuri lorsque le jeune garçon ferma le poing, le plaça à gauche contre sa poitrine et dit « Roland, avant qu'Eddie et Susanna nous rejoignent, puis-je te parler d'Andin ? Puis-je ouvrir mon cœur et le soumettre à tes ordres ?» Mais le sens profond était bien plus complexe que ça, datant de plusieurs siècles avant Arthur l'aîné, à en croire Vanet. Il s'agissait de livrer un problème émotionnel insoluble, souvent lié à une histoire d'amour, à son Dean. Par cet acte, on s'engageait à obéir aveuglément à la décision du Dean, sur le champ, et sans poser la moindre question. Mais Jake Chambers n'avait certainement pas de problème de cœur, à moins d'être tombé amoureux de la ravissante Francine Tavery, bien sûr. Et comment avait-il eu connaissance de cette expression ? Pendant ce temps, Jake le regardait les yeux grands ouverts avec une gravité et une pâleur qui ne disaient rien de bon à Roland. « Dan Dean, où as-tu entendu ça, Jake ?»« Nulle part. J'ai dû l'inventer, je pense. » Et il s'empressa d'ajouter. « Je ne vais pas fureter, je ne me mêle pas des affaires des autres, mais parfois il me vient des choses... Pour la plupart, ça n'a aucune importance, mais parfois... Il y a des expressions comme celle-là. Et tu les attrapes comme un corbeau ou un rouillot va ramasser l'objet brillant qui lui a attiré l'œil. Ouais, ça doit être ça. Et les autres ? Dis-moi en quelques-unes. Jake eut l'air embarrassé. Je ne m'en rappelle pas beaucoup. Dan, Dean, ça veut dire que je t'ouvre mon cœur et que je me plie à ce que tu diras. C'était plus compliqué que ça, mais le garçon en avait compris l'essence. Roland acquiesça. Tandis qu'il cheminait, la chaleur du soleil sur son visage lui faisait du bien. La démonstration de Margaret Eisenhart avec le plat l'avait apaisé, puis plus tard, il avait eu une bonne entrevue avec le père de la dame Sai, et il avait à peu près bien dormi pour la première fois depuis des nuits. « Oui ?»
« Voyons, il y a aussi, dis-moi donc, qui veut dire, je crois, faire courir des bruits sur un sujet dont il ne faut pas parler. Je l'ai retenu parce que ça ressemble à ce qu'on dit quand on fait des potins. Dis-moi donc. »
Jake avait porté la main à son oreille comme s'il écoutait quelqu'un lui chuchoter quelque chose. Roland sourit. En fait, l'expression exacte était « dimodon ». Mais Jack l'avait enregistré phonétiquement, bien sûr. C'était vraiment fascinant. Roland nota qu'il faudrait qu'il dissimule habilement ses pensées les plus intimes dans l'avenir. Heureusement, il y avait les moyens pour ça. Dieu merci.
Il y a aussi Maj Dean, et ça, c'est une sorte de chef religieux. C'est à ça que tu penses ce matin à cause de... Est-ce que c'est à cause de ce vieux Mani ? « C'est un Maj Dean ?»
Roland hocha de nouveau la tête. « C'est tout comme, oui. »« Et quel est son nom, Jake ?» demanda le pistolero en se concentrant mentalement sur ce nom.
« Vois-tu son nom dans mon esprit ?»«
Bien sûr. »«
C'est Enchik, »
répondit immédiatement le garçon, puis, presque nonchalamment,
« Tu lui as parlé ?»«
Quand ?»
Hier soir, tard ?
Oui. En revanche, il ne s'était pas concentré sur ce détail-là, et il aurait préféré que Jake ne fût pas au courant. Mais l'enfant était fort au Shining, et Roland le croyait lorsqu'il disait qu'il n'était pas allé fureter. Du moins pas exprès.
Madame Eisenhart croit qu'elle le déteste, mais toi tu penses qu'elle en a seulement peur ?
Oui, confirma Roland.
« Tu es fort avec le Shining.
Bien plus qu'Alain ne l'avait jamais été, et bien plus que tu ne l'étais auparavant. à cause de la rose, n'est-ce pas ?
Jake acquiesça.
La rose, oui.
Ils chevauchèrent encore un peu en silence, les sabots de leur monture soulevant de petites bouffées de poussière. Malgré le soleil, le fond de l'air était frais, annonçant pour de bon l'arrivée de l'automne.
D'accord, Jake. Parle-moi d'Andine, si tu le souhaites. Et je te remercie pour la confiance que tu places dans la sagesse dont je pourrais faire montre.
Mais durant deux bonnes minutes, Jake resta silencieux. Roland se concentra sur lui, essayant de pénétrer son esprit comme le garçon avait pénétré le sien, et avec quelle aisance. Mais il n'y avait rien.
Rien du tout.
Mais si. Un rat qui hurlait, empalé sur quelque chose.
« Où se trouve ce château dans lequel elle se rend ?»
demanda Jake.
« Tu le sais ?»
Roland fut incapable de dissimuler sa surprise et son étonnement. Et il dut avouer qu'il ressentait également une pointe de culpabilité. Soudain, il comprenait. Pas tout, mais une bonne partie.
« Il n'y a pas de château. Il n'y en a jamais eu. »
C'est un endroit dans lequel elle va en imagination, qu'elle a sans doute inventé à partir des histoires qu'elle a lues et de celles que je vous ai racontées autour du feu. Elle va là-bas pour ne pas avoir à regarder ce qu'elle mange réellement, ce que réclame son bébé.
« Je l'ai vu manger un cochon rôti, » dit Jake. « Seulement, avant qu'elle arrive, il y avait un rat en train de le manger. Elle l'a empalé sur une broche à viande. »
« Où as-tu vu ça ?»«
Dans le château. »
Il marqua une pause.
« Dans son rêve. J'étais dans son rêve. »
« Et elle, elle t'a vu ?»
Les yeux bleus du pistolero s'étaient fait perçants, presque brûlants. Son cheval fut sensible à son changement d'attitude car il s'arrêta net. Celui de Jake fit de même. Il se tenait là, sur la route de l'Est, à moins de 2 kilomètres de l'endroit où Molly Doolin, dite Molly Larousse, avait tué un loup de tonne foudre. Il se tenait là, face à face.
« Non, » répondit Jake. « Elle ne m'a pas vu. »
Roland repensa à la nuit où il l'avait suivie à travers les marécages. Il savait qu'elle s'était réfugiée dans un autre recoin de son esprit. Il l'avait sentie, sans savoir où exactement. Les visions qu'il avait réussi à intercepter étaient quelque peu troubles. À présent, il savait. Il savait autre chose. Sa décision de Dean de laisser Susanna poursuivre dans cette voie mettait Jake mal à l'aise. Et peut-être avait-il raison de se sentir mal à l'aise.
« Mais ça n'est pas Susanna que tu as vue, Jake. »« Je sais. C'est celle qui a toujours ses jambes. Elle se fait appeler Mia. Elle est enceinte et morte de peur. »«
Si tu me parles d'Anne Dean, » répondit Roland. « Dis-moi tout ce que tu as vu dans ton rêve et tout ce qui t'a gêné au réveil. Et alors je te livrerai la sagesse de mon cœur, la sagesse dont je pourrais faire montre. »«
Tu ne vas pas... Roland, tu ne vas pas me gronder. »
Cette fois, Roland fut incapable de cacher sa surprise.
« Non, Jake, loin de là.
C'est peut-être moi qui devrais te demander de ne pas me gronder. » Le garçon eut un faible sourire. Les chevaux se remirent en route, un peu plus vite cette fois, comme s'ils savaient qu'on était passé très près des ennuis et qu'ils voulaient les laisser derrière eux. 2. Jake n'était pas certain que ce qu'il avait dans la tête allait sortir, jusqu'à ce qu'il se lance dans son récit. Il s'était réveillé indécis, ne sachant pas du tout quoi raconter à Roland au sujet d'Andy et de Slightman l'aîné. Il avait fini par se fier à ce que Roland venait de lui dire « Dis-moi tout ce que tu as vu dans ton rêve et tout ce qui t'a gêné au réveil. » Et il avait complètement laissé de côté la palabre au bord de la rivière. À dire vrai, cette partie-là lui paraissait beaucoup moins importante ce matin. Il raconta à Roland comment Mia avait dévalé les escaliers, sa frayeur quand elle avait vu qu'il ne restait rien dans la salle à manger ou la salle de banquet ou quel que soit le nom qu'elle lui donnait. Puis la cuisine, quand elle avait trouvé le rôti et le rat en train de baffrer, comment elle s'était débarrassée de la concurrence avant de se gaver du premier prix.
et lui qui s'était réveillé tout tremblant en essayant de ne pas hurler. Il hésita, puis jeta un œil en direction de Roland, qui lui répondit par son moulinet impatient de la main, celui qui signifiait « Continue, allez, à la fin !»«
Bien, se dit-il, il m'a promis de ne pas me gronder, et c'est un homme de parole. »
C'était vrai, pourtant Jake se sentait toujours incapable d'avouer à Roland qu'il avait songé à vendre lui-même la mèche à Susanna. Il réussit cependant à formuler sa plus grande peur, sachant que trois d'entre eux détenaient un secret que le quatrième ignorait. Leur catète se trouvait brisée au moment même où il avait besoin de toutes ses forces. Il raconta même à Roland la blague du pneu crevé, celle du gars qui disait « Il y a un plaque en bas !» Il ne s'attendait pas à ce que Roland éclate de rire, et sur ce plan-là, le pistolero se montra à la hauteur de ses attentes. Mais il sentit bien que, dans une certaine mesure, Roland avait honte et Jake eut peur de ce constat. Il se disait que la honte était un sentiment réservé à ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient.
« Et jusqu'à la nuit dernière, c'était encore pire que 3 contre 1, dit Jake, parce que tu essayais de me tenir à l'écart, moi aussi. N'est-ce pas ?»«
Non, » répondit Roland.
« Non ?
J'ai simplement laissé les choses comme elles étaient. » J'en ai parlé à Eddie parce que je craignais, maintenant qu'il partage la même pièce, qu'il se rende compte de ses escapades et qu'il soit tenté de la réveiller. Et j'avais peur de ce qui pourrait leur arriver à tous les deux s'ils le faisaient.
Pourquoi ne pas lui dire à elle, tout simplement ?
Roland soupira. Écoute-moi, Jake. Quand nous étions jeunes, c'est Cort qui était chargé de notre entraînement physique. Vanney s'occupait de la partie mentale. Ils ont essayé tous deux de nous transmettre leur conception de la morale. Mais à Gilead, c'était nos pères qui étaient responsables de l'enseignement du cas. Et comme chaque père était différent, chacun de nous est sorti de l'enfance avec une conception légèrement différente du cas et de son action. Tu comprends ?
Ce que je comprends, c'est que tu es élu d'une question très simple, se dit Jake.
Mais il hocha la tête. Mon père m'en a dit beaucoup sur le sujet et j'en ai oublié la plus grande partie. Mais il demeure clairement une chose. Il m'a dit qu'en cas de doute, il faut laisser le cas décider.
Alors, c'est une question de cas, dit Jake, l'air déçu. Roland, ça ne nous aide pas beaucoup ?
Roland entendit l'inquiétude percer dans la voix du garçon. Mais c'est la déception qui le heurta le plus. Il se retourna sur sa selle, ouvrit la bouche, puis la referma quand il se rendit compte que la seule chose qui lui venait, c'était une justification superficielle. Au lieu de se justifier, il choisit de dire la vérité. « Je ne sais pas quoi faire. Tu aurais une suggestion ?» Le visage du garçon vira au rouge vif, et Roland comprit que Jake croyait qu'il donnait dans le sarcasme au nom des dieux. Il le croyait en colère. Une telle incompréhension était alarmante.
« Il a raison, se dit le pistolero.
Nous sommes brisés. Les dieux nous viennent en aide. »« Ne réagis pas ainsi, dit Roland. Écoute-moi, je te prie, écoute bien. À Calabrian Sturgis, les loups arrivent. » À New York, Balassar et ses messieurs arrivent. Tous y seront bientôt là. Le bébé de Susanna attendra-t-il que ses affaires soient réglées ? Je n'en sais rien.
Ça ne se voit même pas qu'elle est enceinte, dit Jake d'une petite voix.
La couleur avait quelque peu quitté ses joues, mais il gardait la tête baissée.
Non, acquiesça Roland, ça ne se voit pas.
Ses seins ont un peu gonflé, et ses hanches sont peut-être un peu plus larges, mais ce sont les seuls indices. C'est pourquoi j'ai des raisons d'espérer. Je dois espérer, et toi aussi. Car en plus des loups et de cette histoire de rose dans ton monde, il y a aussi la question de la 13e noire. Je crois savoir, j'espère savoir, mais il me faut converser encore avec Enchik. Et nous devons attendre la fin de l'histoire du père Callahan. As-tu pensé à parler de toi-même, Susanna ?
Je...
Jake se mordit la lèvre et se tut.
Je vois que oui.
Oublie cette idée. S'il existe une menace, hormis la mort, capable de nous séparer pour de bon, ce serait de parler sans mon assentiment, Jake. Je suis votre Dean.
Je le sais !
Cria presque Jake.
Tu ne vois pas que je le sais ?
Et tu crois que ça me plaît ? Demanda Roland en criant presque lui aussi. Ne vois-tu pas combien tout était plus facile avant que...
Il se tut, atterré par ce qu'il avait été sur le point de dire. « Avant qu'on vienne ?» dit Jake d'une voix blanche. « Bonne pioche, c'est ça. On ne m'a pas demandé à venir. Ni les uns, ni les autres. Et je ne t'ai pas non plus demandé de me lâcher dans les ténèbres, de me tuer. »
Soupira le pistolero, levant les mains puis les laissant retomber sur ses cuisses. Juste devant eux, la route dessinait un coude qui les emmenait en direction de la ferme des Jaffords où les attendaient Eddie et Susanna. Tout ce que je peux faire, c'est te répéter ce que je t'ai déjà dit. Si on a un doute sur le cas, il vaut mieux laisser le cas décider. Quand on interfère, on est sûr de ne pas faire ce qu'il faut.
« Ça ressemble à ce que les gens du royaume de New York appellent une pirouette, Roland. Une réponse qui n'en est pas une, juste un moyen de faire ce qu'on veut aux gens. »
Roland réfléchit, ses lèvres se resserrèrent. « Tu m'as demandé de soumettre ton cœur à mes ordres. »
Jake hocha la tête avec méfiance.
« Alors voici deux choses que je te dis, Dandine. » D'abord, je te dis que nous trois, toi, Eddie et moi, nous allons parler en tête à Susanna avant l'arrivée des loups et lui dire tout ce que nous savons. Qu'elle est enceinte, que son enfant est très probablement celui d'un démon et qu'elle a créé une femme du nom de Mia pour l'enfanter. Ensuite, je propose qu'on ne parle plus de tout ça jusqu'au moment de le lui dire. Jake réfléchit à cette proposition. Ce faisant, il sentit son visage s'illuminer de soulagement.
« T'es sérieux ?»«
Oui. » Roland essaya de ne pas montrer combien cette question l'attristait et l'irritait. Après tout, il comprenait pourquoi le garçon la posait.
« Je le promets et je tiendrai ma promesse. Cela te sied-il ? » ?»«
Oui. Ça me sied très bien. » Roland hocha la tête. Si je fais ça, ce n'est pas parce que je considère que c'est la bonne solution, mais parce que toi, si, Jake.
Je... Une seconde, oh, une seconde, là, fit Jake, et son sourire s'effaça. N'essaie pas de tout me coller sur le dos, je n'ai jamais...
Épargne-moi les inepties, dit Roland sur un ton sec et distant que Jake lui avait rarement entendu. Tu demandes à être partie prenante d'une décision d'homme. Je l'autorise, je dois l'autoriser. Parce que le cas a décrété que tu devais faire partie des décisions importantes. Tu as ouvert cette porte en mettant en question mon jugement. Le nierais-tu ? Jake était passé d'une pâleur extrême à une rougeur flamboyante pour blêmir à nouveau. Il avait l'air méchamment effrayé et secouait la tête sans prononcer un seul mot. Oh, par les dieux, s'est dit Roland, je déteste cette foutue histoire. Ça pue comme de la merde de cadavre. Il reprit la parole d'une voix plus posée. Non, tu n'as pas demandé à être amené ici. Moi non plus, je n'ai pas cherché à te voler ton enfance. Pourtant, nous voilà ici, et le cas se tient sur le bord de la route et se rit de nous. Il nous faut agir selon sa volonté ou bien en payer le prix. Jake baissa la tête et murmura deux mots d'une voix tremblante.
« Je sais. »
« Tu penses que Susanna devrait être informée ? Moi, de mon côté, je ne sais pas quoi faire. En la matière, j'ai perdu ma boussole. Quand l'un sait et l'autre pas, celui qui ne sait pas doit baisser la tête et celui qui sait prendre ses responsabilités. Tu me comprends, Jake ?
Oui,
murmura le garçon en portant son poing à son front. Bien. Alors, laissons là le sujet et grand merci. Tu es fort au Shining.
J'aimerais mieux pas,
explosa Jake. Et pourtant, tu peux entrer en contact avec elle ?
Oui, je ne fouine pas, ni avec elle, ni avec aucun d'entre vous, mais parfois j'entre en contact avec elle. Je reçois des bribes de chansons auxquelles elle pense, ou bien des souvenirs de son appartement de New York. Il lui manque. Une fois, elle a pensé « Je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de lire ce roman d'Alan Drury que j'avais reçu du club de lecture. »
J'imagine qu'Alan Drury devait être un auteur connu dans son camp.
Des choses superficielles, en somme.
Oui.
Mais tu peux aller plus loin.
Je pourrais sans doute la voir se déshabiller aussi, dit Jake d'un air sombre.
Mais ce ne serait pas bien.
Dans les circonstances présentes, ça l'est, Jake. Pense à elle comme à un puits où tu dois te rendre chaque jour pour prendre juste une gorgée et vérifier que l'eau est toujours bonne. Je veux savoir s'il se produit des changements en elle. Ce que je veux savoir, par exemple, c'est si elle envisage Aleio. Jake le dévisagea avec des yeux ronds.
De s'enfuir ? S'enfuir où ?
Roland secoua la tête. Je ne sais pas. Où va une chatte pour mettre bas sa portée ? Dans un placard ? Sous une grange ?
Et si on le lui dit à elle et que l'autre prend le dessus ? Et si c'est Mia qui va à Leo, Roland, et qu'elle entraîne Susanna avec elle ?
Roland ne répondit pas. C'était précisément ce qu'il craignait lui-même, et Jake était assez fin pour l'avoir compris. Jake le regardait avec un ressentiment assez compréhensible, mais aussi une approbation.
Une fois par jour, pas plus.
Plus si tu sens un changement.
D'accord, dit Jake. Je déteste faire ça, mais je t'ai demandé d'Andine. Tu m'as eu, il faut croire.
Ce n'est pas un bras de fer, Jake, pas plus qu'un jeu.
Je le sais.
Jake secoua la tête.
On dirait que tu t'es débrouillé pour tout faire reposer sur moi, mais ok.
Oui, je fais tout reposer sur toi, pensa Roland. Il se dit qu'il valait mieux qu'aucun d'entre eux ne sache combien il se sentait perdu en cet instant, combien l'intuition qu'il avait guidée tant de fois s'était évanouie. C'est ce que je fais, mais uniquement parce que je n'ai pas le choix.
Taisons-nous maintenant et puis nous lui dirons avant l'arrivée des loups, résuma Jake. Parce qu'il faudra se battre. Marché conclu.
Roland fit oui de la tête.
Si on doit combattre Balassar en premier, dans l'autre monde, il faudra aussi le lui dire avant, d'accord ?
Oui, fit Roland, d'accord.
J'ai horreur de ça, précisa Jake d'un air morose.
Moi aussi, renchérit Roland. 3. Eddie était assis à tailler un morceau de bois sous la galerie des Jaffords, écoutant une histoire plutôt embrouillée du grand-père, acquiesçant au hasard en espérant bien tomber, quand Roland et Jake arrivèrent à cheval. Eddie mit son couteau de côté et descendit nonchalamment les marches à leur rencontre, appelant Suze par-dessus son épaule. Il se sentait extraordinairement bien ce matin. Ses peurs de la nuit précédente s'étaient évanouies, comme c'est souvent le cas avec les pires de nos frayeurs nocturnes. Comme les types 1 et type 2 du père, ses peurs semblaient particulièrement allergiques à la lumière du jour. Pour commencer, tous les enfants de Jaffords avaient répondu à l'appel au moment du petit déjeuner. Ensuite, il manquait bel et bien un porcelet dans la grange. Tian avait demandé à Eddie et à Susanna s'ils avaient entendu quoi que ce soit pendant la nuit, et hocha la tête avec une satisfaction morose lorsqu'ils répondirent tous deux par la négative.
Les races mutantes se sont presque éteintes dans notre coin, mais pas au nord. Chaque automne, des bandes de chiens sauvages descendent. Il y a 2 semaines, ils étaient sûrement du côté de Kala Amity. La semaine prochaine, on sera débarrassé d'eux, et ils iront embêter Kala Lockwood. C'est silencieux, ces bêtes-là. C'est pas qu'ils ne fassent pas de bruit, mais ils sont muets.
Rien là-dedans, fit Tian en se tapotant la gorge. En plus, on ne peut pas dire qu'ils aient pas rendu service. J'ai trouvé un énorme rat, Redmore. Un des chiens lui a quasiment arraché la tête.
Quelle saleté!
Avait dit Edda en repoussant son bol avec une grimace théâtrale.
Tu vas me manger ta bouillie, mademoiselle! Avait grondé Zalia. Ça te réchauffera pour aller tendre le linge.
Maman, pourquoi?
Eddie avait croisé le regard de Susanna et lui avait adressé un clin d'œil. Elle lui rendit, et tout rentra dans l'ordre. D'accord. Elle était allée se balader la nuit dernière. Elle s'était fait un petit casse-croûte de minuit. Elle avait enterré les restes. Eh oui, il fallait régler cette question de grossesse. Bien sûr que oui. Mais tout allait bien se passer, Eddie en était certain. Et à la lumière du jour, la perspective de voir Susanna s'en prendre à un enfant paraissait tout bonnement ridicule.
Allez, Roland, Jake.
Eddie se tourna vers Zalia qui sortait de la galerie. Cette dernière fit une révérence. Roland retira son chapeau, le tendit vers elle, puis le remit sur sa tête.
Sai, lui demanda-t-il. Vous êtes du côté de votre mari sur la question des loups, si fait.
Elle soupira, mais ne détourna pas les yeux.
Oui, pistolero. Demandez-vous assistance et secours?
La question avait été posée sans ostentation, presque sur le ton de la conversation, en fait. Mais Eddie sentit son cœur faire un bond, et lorsque Susanna glissa sa main dans la sienne, il la serra. C'était la troisième question, la question clé. Et ce n'était pas au gros fermier, au gros éleveur ou au gros homme d'affaires de la Cala qu'elle était posée. C'était à la femme d'un pecno avec son petit chignon de souris, une femme de petit exploitant, dont la peau, bien que naturellement mate, était aussi tannée et craquelée par l'excès du soleil, une femme dont la robe avait passé. Et c'était là une bonne chose, une très bonne chose. Car l'âme de Calabrian Sturgis, c'était ses 40 petites exploitations, des petites fermes comme celle-ci, comprit Eddie. Que Zalia Jeffords parle en leur nom à tous. Pourquoi pas, bon sang?
J'en fais la requête et grand merci, répondit-elle avec simplicité. Que Dieu et l'homme Jésus vous bénissent, vous et les vôtres.
Roland hocha la tête comme s'il ne faisait que discuter gentiment pour tuer le temps.
Margaret Eisenhart m'a montré quelque chose.
Vraiment? Dit Zalia avec un petit sourire. Tian apparut au coin de la maison et s'approcha de son pas lourd. Il avait l'air fatigué et il était en nage, alors qu'il n'était encore que 9 heures du matin. Il portait sur l'épaule un harnais usé. Il souhaita le bonjour à Roland et à Jake, puis alla se planter à côté de sa femme, lui passant la main autour de la taille et la posant sur sa hanche.
« Si fait, elle nous a raconté l'histoire de Dame Rudsin et de Greg Dick. « C'est une belle histoire, » fit-elle.
« C'est vrai, » répondit Roland. « Je n'irai pas par 4 chemins, Dame Sai. » « Rejoindrez-vous les rangs avec votre plat, leur venue. » Les yeux de Tian s'arrondirent. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il regarda sa femme comme un homme qui vient soudain de recevoir une grande révélation.
« Si fait, » répondit Zalia.
Tian lâcha le harnais qu'il portait et la prit dans ses bras. Elle le serra contre elle, d'une étreinte forte et brève, puis se tourna vers Roland et ses amis. Roland souriait. Eddie se sentait gagné par un certain sentiment d'irréalité, comme toujours quand il assistait à ce genre de phénomène.
Bien. Et pourriez-vous en enseigner le lancer à Susanna ?
Zalia jeta un regard interrogateur en direction de Susanna.
L'apprendrait-elle ?
Je ne sais pas,
répondit cette dernière.
Je suis censé l'apprendre, non, Roland ?
Oui.
Quand, pistolero ? Demanda Zalia.
Roland fit un calcul rapide. Dans 3 ou 4 jours, si tout va bien. Si elle ne montre aucune aptitude, renvoyez-la moi et on essaiera avec Jake. Jake eut un sursaut visible.
Mais je pense qu'elle s'en tirera très bien. Je n'ai jamais vu un pistolero qui ne se fasse pas à une nouvelle arme comme un oiseau à une nouvelle mare. Et il me faut au moins une personne capable de lancer le plat ou de tirer au bas, car nous sommes 4 pour 3 pistolets. Et j'aime bien le plat. J'aime beaucoup ça.
Je vous montrerai tout ce que je peux, comptez là-dessus, dit Zalia en adressant un regard timide à Susanna.
Alors, dans 9 jours, vous, Margaret, Rosalita et Sarah Adams viendrez chez le vieux et nous verrons ce que nous verrons.
Vous avez un plan ? Demanda Tian, les yeux brûlants d'espoir.
J'en aurai un, répondit Roland.
4. Ils chevauchèrent de front, tous les 4, en direction de la ville, mais lorsque la route de l'Est en croisa une autre qui conduisait au nord et au sud, Roland prit les devants.
« C'est là que je vous abandonne pour un petit moment, leur dit-il en indiquant les collines, au nord. À 2 heures d'ici se trouve ce que certains parmi le peuple en quête appellent Banikala, et d'autres Bani du Sentier Rouge. Quoi qu'il en soit, c'est chez eux, une petite ville dans la grande ville. Je vais y voir Enchik.
Leur dîne, précisa Heidi.
Roland acquiesça.
Au-delà du village Mani, à 1 heure environ, se trouvent des mines à ciel ouvert et plein de grottes.
C'est l'endroit que tu indiquais sur la carte des jumeaux Tavery ? Demanda Susanna.
Non, mais c'est tout proche. La grotte qui m'intéresse est celle qui s'appelle la grotte de la porte. On en entendra parler ce soir quand Callahan finira son histoire.
Tu en es certain ou c'est de l'intuition ?
Hasarda Susanna.
Je le tiens de Enchik. Il m'en a parlé hier soir. Il a aussi parlé du père. Je pourrais vous le répéter, mais il vaut mieux que ça vienne de Callahan lui-même. Quoi qu'il en soit, cette grotte aura de l'importance pour nous.
C'est notre billet de retour, n'est-ce pas ?
Demanda Jake.
Tu penses que c'est par là qu'on rentrera à New York ?
Plus encore, corrigea le pistolero. Avec la 13e noire, je pense que c'est peut-être le chemin vers tous les où et tous les quand.
Y compris la tour sombre ?
Fit Eddie d'une voix rauque à peine audible.
Je ne saurais le dire, répondit Roland, mais je pense qu'Enchik me fera visiter la grotte, et alors j'en saurai un peu plus. En attendant, vous trois, vous avez du pain sur la planche chez Took, l'épicier.
Ah bon ?
Fit Jake.
Oui.
Roland posa son sac en équilibre sur ses genoux, l'ouvrit et se mit à fouiller au fond. Il finit par en extraire une petite bourse à lanière de cuir qu'aucun d'eux n'avait vue avant ce jour.
« C'est mon père qui me l'a donné, » dit-il d'un air distrait. « C'est tout ce qui me reste de lui aujourd'hui, à part les vestiges de mon visage de jeunesse, celui que j'arborais en entrant à Megis avec Mikami, il y a tant d'années. »
Ils contemplèrent l'objet avec un mélange d'effroi et de fascination, traversés tous trois par la même pensée. Si le pistolero disait vrai, cette petite bourse de cuir devait être vieille de plusieurs siècles. Roland l'ouvrit, regarda à l'intérieur, puis hocha la tête.
« Susanna, tends les mains !»
Ce qu'elle fit, et dans ses paumes réunies en coupe, il déversa 10 de pièces d'argent, vidant complètement la bourse.
« Eddie, tends les tiennes !»
Roland, je crois qu'il n'y a plus rien dans le placard. Tends les mains.
Eddie haussa les épaules et s'exécuta. Roland inclina la bourse au-dessus des paumes du jeune homme et y fit glisser une douzaine de pièces d'or, vidant de nouveau le sac.
Jake ?
Jake ne se fit pas prier et tendit les mains. Depuis la poche avant de son poncho, Otey observait la scène avec un grand intérêt. Cette fois, la bourse expulsa une demi-douzaine de pierres précieuses scintillantes. Susanna les contempla, bouche bée.
« Ce ne sont que des grenats, » précisa Roland, s'excusant presque.
« Une bonne monnaie d'échange par ici, à ce qu'on m'a dit. Ils n'ont pas une grande valeur marchande, mais ils suffiront aux besoins d'un garçon, j'imagine. »«
Génial !»
lâcha Jake avec un grand sourire.
« Grand merci, beaucoup, beaucoup !»
En silence, ils regardèrent la bourse vide d'un air ébahi, ce qui fit sourire Roland.
La plupart de la magie que je maîtrisais ou à laquelle j'avais accès a aujourd'hui disparu, mais il y a des petits restes, comme vous pouvez le voir, comme des feuilles de thé mouillées collées au fond de la théière.
« Il y en a encore là-dedans ? »
demanda Jake. « Non, dans un certain temps peut-être. C'est un sac serre. » Roland remit la vieille bourse de cuir dans son sac, sortit en échange la réserve de tabac frais offerte par Callahan et se roula une cigarette.
« Allez au magasin. Achetez ce que vous voudrez, quelques chemises par exemple, dont une pour moi si cela vous sied. Ce ne serait pas du luxe. Puis vous irez vous mettre sous la véranda, prendre vos aises, comme le font les gens de la ville.
Saïtouk ne va pas aimer beaucoup ça, parce que ce qui lui ferait le plus plaisir, c'est de nous voir repartir vers l'est, droit sur Tonne Foudre. Mais il ne vous mettra pas dehors.
Qu'il essaie un peu pour voir,
grommela Eddie en touchant la crosse de l'arme de Roland.
Ce ne sera pas nécessaire, dit Roland. Le négoce suffira à le garder derrière son comptoir, occupé de son tiroir-caisse. Ça est le climat qui règne en ville.
Ils sont avec nous, n'est-ce pas ? demanda Susanna.
Oui, Susanna. Si vous leur posiez directement la question, comme je l'ai fait avec Saïja Force, ils ne vous répondraient pas, alors autant ne rien demander. Pas encore. Mais oui, ils ont l'intention de se battre, ou de nous laisser nous battre pour eux. Nous battre pour ceux qui ne le peuvent pas, c'est là notre tâche. »
Eddie fut sur le point de répéter à Roland ce que le grand-père lui avait raconté, mais il se ravisa. Roland ne le lui avait pas demandé, même si c'était pour cette raison qu'il les avait envoyés chez les Jaffords. D'ailleurs, Susanna non plus ne leur avait rien demandé. Elle n'avait fait aucune allusion à sa conversation avec le vieux Jamie.
« Tu vas poser à Enchik la même question qu'à Madame Jaffords ?» demanda Jake.
« Oui, à lui je vais la poser. »«
Parce que tu sais qu'il va répondre. »
Roland acquiesça et un sourire se dessina à nouveau sur ses lèvres. Il ne s'agissait pas là d'un sourire de réconfort, mais d'un sourire aussi froid qu'un rayon de soleil sur la neige.
Un pistolero ne pose cette question que lorsqu'il est certain de la réponse qu'on va lui faire. Nous nous retrouverons pour le repas du soir chez le père. Si tout se passe bien, je serai là-bas au moment où le soleil atteindra la ligne d'horizon. Tout va bien pour vous, Eddie, Jake? Une légère pause, Susanna?
Ils hochèrent tous la tête, Otey y compris.
Alors à ce soir. Grand bien à vous et puisse le soleil ne jamais vous aveugler.
Il donna des talons à son cheval et s'engagea dans la petite route mal entretenue qui menait au nord. Ils le regardèrent s'éloigner jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse. Et comme toujours lorsqu'il les quittait et qu'il se retrouvait seul, ils ressentirent tous trois un mélange complexe de peur, de solitude et de fierté. Ils reprirent le chemin de la ville, leurs chevaux un peu plus proches les uns des autres.